Prime Vert, le salon rencontre de l'altérécologie, une série d'émissions réalisées par Aura FM, la Fédération des radios associatives Auvergne-Rhône-Alpes.
Je suis avec Claire Serin, qui est contributrice à Wikipédia et à d'autres projets de la Fondation Wikimedia, ainsi que Lucas Lévesque, contributeur également, parce qu'avec Wikipédia, on est avant tout contributeur, et formateur et conseiller sur les projets Wikimedia. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour parler de Wikipédia, qui est la partie émergée de l'iceberg de Wikimedia. Et Claire, j'aimerais beaucoup que tu me parles de comment toi, tu as rencontré Wikimedia et tu as décidé de devenir contributrice.
Il y a sur Lyon, il y a tout un groupe de contributeurs qui se réunissent régulièrement, qui proposent des ateliers, des activités. Donc, je les ai rencontrés sous ce biais-là. Donc, j'ai commencé avec Wikipédia. Et puis, en les rencontrant et en discutant, après, j'ai versé des photos dans Wikicommons. Et puis, comme il y a aussi un gros groupe de contributeurs du Wiktionnaire, ben, j'ai commencé à connaître aussi le Wiktionnaire. Et puis, Wikisource, et dans un projet aussi auquel j'ai participé.
Alors justement, quelle est la contribution que toi, tu apportes à ce réseau ?
Ça peut être différentes formes. Donc, pour Wikipédia, ça peut être créer des articles, compléter des articles, mettre des articles à jour. Dans Wikicommons, par exemple, en ce moment, je suis en train de verser nombre de photos sur le quartier de Lapardieu, puisque j'habite à Lapardieu. Et donc, en fait, régulièrement, je prends des photos pour voir le développement des chantiers et pour avoir une trace de comment était le quartier avant, pendant et après les travaux.
C'est intéressant. Il y a un archivage de ton environnement proche, en fait.
Oui, c'est une manière personnelle de contribuer en Wikicommons, parce qu'on peut mettre, en fait, c'est une médiathèque, donc on peut mettre des sons, des images, des vidéos. Et moi, comme le quartier est en pleine transformation, je trouvais ça intéressant, en fait, de garder une trace de ce qui se passe dans ce quartier. Mais ça peut être d'autres photos, des choses complètement différentes qu'on peut mettre dans Wikicommons.
Alors, il y a un nombre assez important de projets dans Wikimedia. Je ne sais pas, peut-être, Lucas, tu voudrais dire un mot sur cette variété de projets qui existent. Est-ce que tu peux même tous les citer ?
Oui, je peux tous les citer. Le premier projet qui est arrivé, c'était donc Wikipédia, avant même la fondation qui l'héberge aujourd'hui. Assez rapidement est né le Wiktionnaire en 2002, la version francophone en 2004. Et en fait, au fur et à mesure de la description des savoirs dans Wikipédia, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas faire que de l'encyclopédie pour décrire les savoirs du monde, qu'il existe d'autres façons de décrire les savoirs, donc de manière linguistique avec le Wiktionnaire. Et puis on a commencé à rassembler les textes, donc on les a mis dans Wikisource, on a créé Wikisource, on a rassemblé les images qui étaient dispersées avant, on a créé Wikimedia Commons. On a créé des supports pédagogiques, puisque c'est difficile d'apprendre seulement avec Wikipédia. Donc on a créé un support pour faire des exercices qui s'appelle Wikibooks, ou Wikilivre en français. Ensuite, d'autres projets sont venus. On a Wikinews, qui sont les actualités. On a la Wikiversité, qui rassemble des cours universitaires ainsi que des projets de recherche qui sont accessibles à tous. On a la base de données Wikidata, et qui est apparu pour rassembler et lier toutes ces informations factuelles. On a le Wikispecies qui liste toutes les espèces du vivant.
Ouais, c'est incroyable le nombre de projets qui existent.
C'est ça. Et après, on a encore Wikicode qui sont des citations, des recueils de citations. Et tout ça va être chapeauté par d'autres projets qui sont des projets plus internes. Tout ça fonctionne sur le logiciel MediaWiki, qui est un logiciel libre aussi que tout le monde peut installer. Donc on peut avoir Wikipédia pour mettre autre chose en termes de contenu. Et puis, on a des projets internes comme MetaWiki, qui est le projet des projets. On va discuter du fonctionnement des projets. On va avoir l'incubateur pour faire naître des projets, soit des versions linguistiques, soit des nouveaux projets. On va les tester dans l'incubateur. Et ensuite, on a des regroupements comme la Wikimania, qui est le salon annuel des Wikipédiens qui se déplace d'année en année. Et j'oublie Wikivoyage, qui est un projet qui est né à l'extérieur et qui a été intégré en même temps que Wikidata, la création de Wikidata dans le projet. Voilà, qui est un guide de voyage pour le coup.
Et donc dans tous ces projets, dans Wikimedia, Le point commun, c'est la contribution libre et gratuite de centaines, voire de milliers de personnes. Est-ce qu'on sait combien il y a de contributeurs?
On est sur le monde entre 100 000 et 200 000 contributeurs et contributrices.
Ça fait une grosse fourchette, 100 000 à 200 000.
C'est très difficile d'estimer, puisque on a un certain nombre de comptes, des gens qui ont été inscrits, qui ont contribué à un moment donné. Là, je vous parle donc de maintenant, en ce moment. Et on a un grand nombre d'anonymes, des IP, dont on a juste l'adresse IP, donc votre adresse Internet. Et là, c'est une fourchette, puisque les gens peuvent contribuer à leur bibliothèque. À ce moment-là, c'est une IP pour tous ceux qui contribuent dans la bibliothèque. Et en même temps, si chacun contribue chez soi, ça fait
Oui, il y a peut-être des personnes cachées derrière.
Donc c'est une fourchette, c'est pour ça.
Ouais.
Le 100 000, c'est le minimum, et c'est certain, pour le coup.
Et vous deux, vous êtes tous les deux entrés dans la communauté, puisqu'on parle de communauté avec Wikimedia, puisqu'il y a tous ces contributeurs, par cette porte-là, celle de la contribution.
Tout à fait.
Mais aujourd'hui, pour chacun d'entre vous, ça va plus loin, puisque déjà, vous êtes ici aujourd'hui. Mais en plus, Claire, toi, tu enseignes les mathématiques au lycée.
Oui.
Dans la vie, aux horaires de bureau, on va dire,
voilà.
Quand tu n'es pas contributrice, j'imagine, sur le reste du temps. Comment est-ce que cette implication dans Wikipédia ou les autres projets de Wikimedia ont fait que tu as commencé à faire entrer ça dans la sphère professionnelle ?
En fait, je me suis aperçue rapidement que les élèves, on leur a toujours dit depuis très longtemps, ne va pas dans Wikipédia, c'est toujours tout ce qu'on trouve, c'est faux, c'est n'importe quoi, tout le monde peut contribuer, donc comme tout le monde peut contribuer, forcément c'est faux, du moins les informations ne sont pas justes, ne sont pas correctes, donc tous mes collègues le disent aux jeunes, n'allez pas dans Wikipédia, c'est pas correct, et puis surtout copiez pas, enfin, je sais pas s'ils ont peur que ce soit faux ou qu'ils ont peur qu'ils copient, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une très très mauvaise image de Wikipédia au niveau des lycéens. Et du fait que je contribue, je sais qu'effectivement, tout ce qui est publié dans Wikipédia, il faut que ce soit sourcé. C'est assez strict en termes de critères pour pouvoir publier un article, qu'il y a des vérifications en permanence sur ce qui est publié, ce qui est écrit sur les articles. Donc moi, je me suis dit, il faut absolument qu'on leur explique comment marche Wikipédia. Après, ils pourront se faire leur propre jugement. Et puis, il y avait une deuxième approche aussi du fait de mon collègue de français, qui, lui, avait beaucoup de mal à faire comprendre aux jeunes qu'il y avait des sites qu'on pouvait effectivement, qui donnaient des véritables infos et des sites qui donnaient des fake news. Et l'idée, c'était de les faire travailler sur quelle est la différence entre un site comme Wikipédia et un site comme Facebook. Est-ce qu'on peut les mettre au même niveau en termes d'information?
Est-ce que tu peux parler des projets que tu fais avec tes élèves?
Donc, en partant de ce constat-là, j'ai inscrit la classe dans laquelle je suis prof principale au Wiki Concours lycéen. Donc, ce qui va nous permettre de les faire travailler sur informer et s'informer, c'est-à-dire savoir comment se propage l'information, les faire contribuer eux-mêmes, c'est-à-dire pour leur faire prendre conscience de ce que c'est qu'une source, de ce qui est publié doit être sourcé, de savoir aussi quelles sont les sources fiables, quelles sont les sources qui ne sont pas fiables, notamment de pointer du doigt que peut-être ce qui est publié sur Facebook, c'est peut-être pas des sources très très fiables, et de se rendre compte que effectivement Wikipédia, dans ce point de vue-là, est un site qui peut être fiable du fait que l'article est sourcé. Tout du moins, quand on lit l'article, on s'aperçoit que les sources sont fiables. Du coup, on peut se fier à cet article de Wikipédia.
C'est ça qui fait qu'on peut identifier le vrai du faux dans une information. Enfin, comment on peut être sûr qu'une information sur Wikipédia va être plus juste qu'une information sur Facebook?
Ça va être justement, c'est le but aussi, c'est de créer l'esprit critique chez les jeunes. Et de les former à regarder quelles sont les sources, si c'est une source primaire, une source secondaire, et de faire aussi une hiérarchisation des sources en termes de crédibilité.
Alors voilà, en ce moment, le débat médiatique est complètement sclérosé de désinformation, de fake news, etc. Et on a du mal à savoir vraiment ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce qui est une opinion, ce qui est un fait. Et est-ce qu'il y a un vrai engagement de la part de Wikimedia, je vous la pose cette question à tous les deux, pour cette lutte contre la désinformation?
oui, mais en fait, il est là depuis le début. C'est-à-dire que les projets Wikimedia, donc Wikipédia, Wiktionnaire et les autres, ont des critères pour faire entrer l'information dans les projets. Et ces critères-là ont été définis par la communauté et ils sont objectifs du mieux possible. Et donc, vis-à-vis de ces critères, on peut juger l'origine d'une source ou pas. Je vais prendre un exemple, le Daily Mail, journal anglais, a publié tellement de fake news et la vérification est tellement compliquée que la Wikipédia anglophone a banni le simple fait de sourcer avec le Daily Mail, parce que c'était impossible de faire la part du vrai et du faux. Donc on ne peut plus faire confiance à cette source-là. C'est pas un exemple. Pour d'autres, ça n'a pas été le cas en France, on n'a pas banni d'autres médias francophones. Néanmoins, à partir des critères, on est capable de vérifier une source secondaire, une source primaire et une source de qualité ou pas. Sur les articles d'actualité, je ne sais pas, les attentats, Wikipédia a souvent un article, mais il y a un gros bandeau puisqu'on sait que ce sont des informations qui ne sont pas encore vérifiées par toutes les sources. Donc, il faut prendre des pincettes. On avertit les gens. L'engagement, il est là aussi. On avertit les gens. On peut mettre de l'information, mais on peut aussi ne pas être sûr. Et il va falloir attendre. Quand quelqu'un décède à un moment, il a un bandeau sur sa page Wikipédia, s'il en a une. Attention, c'est une personne décédée récemment. Cette information est encore fraîche. On n'a donc pas encore suffisamment de recul sur la personne. Cet engagement, il est là-dessus. Et c'est aussi le cœur des projets d'avoir une méthode de description des savoirs du monde fiables, qui se reposent donc sur une méthodologie, sur des principes qui ne sont pas seulement issus de la communauté, mais qui sont faits grâce à des définitions philosophiques et des grandes réflexions qui ont eu lieu au tout début des projets.
Le process de contribution sur Wikipédia est basé sur les faits scientifiques, etc. Mm-hmm. Mais il y a aussi une portion de débat qui est hyper présente. Et moi, j'ai découvert assez récemment qu'il y avait des pages de lieux ou de personnalités politiques, notamment, qui sont des vraies guérillas locales entre des contributeurs. Alors, est-ce qu'on a une conscience de peut-être... De quelles pages sont sensibles, ou est-ce qu'il y a vraiment des pages qui sont publiées puis dépubliées
Alors oui, ça arrive. C'est des pages qui sont publiées, dépubliées, republiées, ça arrive régulièrement. C'est le principe, c'est-à-dire qu'on a une frontière au niveau des critères d'admissibilité, mais cette frontière étant faite par des humains, est donc floue, et donc des fois, on est sur la frontière et on ne sait pas, et la communauté peut à tel moment choisir non, puis à tel moment choisir oui, puis des gens qui sont de plus en plus célèbres, au moment où ils deviennent célèbres, on ne sait pas encore s'ils le sont assez, c'est parfois pas très clair. Néanmoins, si on peut vérifier le niveau de débat d'un article en allant sur l'onglet « Discussion ». Si le lien est rouge, c'est que l'onglet n'existe pas. Si l'onglet n'existe pas, ça veut dire que l'article a été fait sans discussion. Bon, en tout cas, pas à cet endroit-là. Ça veut dire souvent sans discussion. Et donc, en gros, soit il a été fait par une seule personne, soit c'était de manière suffisamment consensuelle pour que les contributeurs et les contributrices n'aient pas à débattre sur le contenu de l'article. Si le lien est bleu, ça veut donc dire qu'il y a une page. Alors peut-être, ça peut être juste des informations techniques, des fois ça arrive, mais là où vous savez que le sujet est très connu, très important dans l'actualité, ça peut être une fiche d'homme politique ou de femme politique, ça peut être le coronavirus pour l'exemple d'aujourd'hui, mais le conflit israélo-palestinien pour un autre exemple, ou un homme historique ou une personne historique qui a été très connu mais qui peut être controversée en fonction des pays, eh ben, on va avoir un débat, puisque le principe de neutralité sur Wikipédia n'est pas... La neutralité, c'est utopique, mais on a un principe, c'est qu'on va chercher au maximum le consensus. On va donc se reposer sur des arguments sourcés pour chercher ce consensus, et on va au prorata des sources. J'ai plus de sources là-dessus et j'en ai très peu sur ça. Du coup, on va faire un plus gros article sur la première source et peut-être 2-3 lignes seulement sur le deuxième sujet qui est moins important dans l'article, de mon point de vue.
Il n'y a pas d'instance de vérification. C'est la communauté qui, par elle-même, trouve le consensus.
Tout à fait.
De toute façon,
si elle ne trouve pas le consensus, l'article n'est pas contribué. Donc, son but, c'est quand même qu'il y ait quelque chose qui soit affiché au fur et à mesure. On a des médiateurs qui sont là, non pas pour le contenu du débat, mais qui sont là pour faire en sorte que les règles de respect des autres soit à l'œuvre. Et s'il n'y a pas de respect, on clôt le débat, obligation de consensus. Et s'il y a des gens qui dépassent les bornes, ils peuvent être bloqués parce qu'ils ne sont pas là pour contribuer. Ça arrive quand même de temps en temps, mais ce n'est pas non plus quelque chose de systématique. Il faut vraiment le chercher pour se faire bloquer.
Moi, je trouve que c'est ce qui est intéressant dans Wikipédia et les projets, c'est qu'en fait, ce soit très démocratique. C'est-à-dire que on peut tout trouver sur les pages de discussion. Ces pages de discussion ne disparaissent pas. Et on peut tout lire et on peut tout regarder et tout le monde peut participer. Et il n'y a personne qui serait en haut et qui déciderait pour d'autres. En fait, c'est vraiment la communauté qui décide ensemble.
Alors, l'encyclopédie et puis tous les projets associés, surtout les images, les vidéos, j'imagine, ce sont des masses de données qui sont énormes. Est-ce qu'il y a une prise de conscience de la part de Wikimedia, voire des actions qui sont prises pour répondre aux enjeux de la pollution numérique et de l'impact de cette masse de données qui grandit de façon exponentielle?
Alors oui, elle ne grandit pas de manière exponentielle, mais elle grandit de manière importante quand même. On n'est pas sur du doublement tous les ans, par exemple. C'est quand même pas à ce niveau-là. Néanmoins, la Fondation, depuis 2 ans, a mis en place un programme pour analyser son impact environnemental, puisque c'est idiot d'avoir une Wikipédia complète quand le reste de la planète est un brasier. Ça n'a pas de sens. L'humanité d'abord et Wikipédia après. Même la Fondation en est consciente. Et on a beaucoup analysé ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport aux autres énormes sites dans les top 10 d'Internet, Wikipédia pèse assez peu informatiquement. Vous pouvez télécharger l'intégralité des textes de la Wikipédia francophone sur votre ordinateur sans souci, puisqu'il pèse 4 gigas, donc ça fait 4 DVD.
Ah oui.
C'est même un quart d'un Blu-ray en termes de poids informatique. Donc c'est pas grand-chose. Les images pèsent un peu plus lourd, mais celles qui sont dans les articles sont souvent des vignettes, donc elles ne sont pas forcément affichées. On n'est pas dans de l'ultra HD, on n'est pas au niveau des qualités des vidéos YouTube non plus. Donc on pèse beaucoup moins en termes de contenu.
Même ensuite, si c'est le 5e ou 6e site le plus visité
tout à
en
fait.
Fonction on des est quand années.
Même, on est quand même dans des facteurs vachement plus faibles en termes de consultation et de poids sur les réseaux. Ça, c'est la première chose. Et on a analysé non seulement notre poids informatique, puisqu'on a des data centers, on en a 5 autour du monde, pour justement analyser... Enfin, faire en sorte que tout le monde ait accès à ça. On est sur 3 continents et on est en train d'en ouvrir sur d'autres. Ça pèse pas tant que ça, puisqu'on essaye au maximum d'utiliser l'énergie verte. Néanmoins, en fonction des pays où se trouvent les data centers, il n'y a pas assez de fournisseurs en énergie verte. Mm-hmm. Donc c'est le problème, c'est qu'on aimerait bien, mais il n'y a pas assez d'éoliennes ou d'énergie alternative ou renouvelable pour, alimenter tous nos data centers. Un autre aspect, c'est que la fondation, les gens qui sont vraiment impliqués sur le terrain représentent plusieurs milliers de personnes et on a une consommation assez considérable de déplacements. Et on essaie d'avoir des goodies qui sont faits localement, mais on n'en fait pas tant que ça. Ça va être surtout les déplacements en avion, puisque par exemple la présidente se déplace assez régulièrement pour promouvoir la fondation, pour promouvoir faire des accords dans plein de pays. Par exemple, on a été beaucoup actifs vis-à-vis de la Turquie pour débloquer Wikipédia en Turquie récemment. Ça a impliqué des déplacements. Donc voilà, on est une communauté qui bouge puisqu'on essaye d'atteindre des gens de plus en plus éloignés à l'informatique, à Internet. Des communautés qui sont assez mises à l'écart de nos sociétés actuelles, parce qu'on sait que ces sociétés-là, qui sont très fragiles, sont celles qui ont peut-être le plus besoin de description, d'accès à l'information et d'être décrites, de se décrire aussi. Et ça demande un coût de déplacement humain qui est assez important.
Et avec une ambition d'avoir des versions des outils Wikimedia qui soient aussi hors d'Internet.
C'est ça.
Tu me disais,
On a développé l'outil KiWix, donc comme un kiwi avec un X après, qui vous permet de télécharger facilement le contenu de Wikipédia ou du Wiktionnaire ou d'un autre projet et d'avoir comme ça un accès hors ligne à tous nos projets, à toutes nos données. Et il y a déjà des points d'accès à ces Wikipédia hors ligne, notamment en Afrique, mais dans d'autres pays, c'est le cas aussi. et vous pouvez l'avoir sur votre smartphone assez facilement. C'est des applications, notamment en smartphone, qui sont très peu gourmandes en termes de contenu et de connexion.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter, une annonce sur un événement prochain ou une invitation peut-être à contribuer ?
Qu'il ne faut pas avoir peur de contribuer.
Ouais, voilà.
Il faut s'y mettre, et c'est pas si compliqué que ça.
Et il ne faut pas se focaliser sur Wikipédia. Il y a, comme on l'a mentionné, plein d'autres projets qui sont d'autres façons de partager le savoir. Il n'y a pas que l'encyclopédique dans la vie. Et donc, vous trouverez peut-être votre pied à faire totalement autre chose. Et les projets sont là pour décrire mille et une façons le savoir du monde.
Merci pour toutes ces informations. Merci d'avoir si bien contribué en ces 20 minutes d'enregistrement.
Merci beaucoup.
C'était le salon Primevert à Eurexpo, une série d'émissions réalisées par Aura FM, la Fédération des radios associatives Auvergne-Rhône-Alpes.